This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma format Extra Ball, notre petite digression favorite qui nous permet de mettre en lumière un film, une série ou en l'occurrence un documentaire, Walt Disney l'Enchanteur, portrait en profondeur du mondialement connu créateur de l'Empire Disney, 4 heures de films réunis dans un coffret DVD qui vient de sortir chez l'Atelier d'Images. Et pour en parler, je suis avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Thomas.
Allez, Cénociné Extra Ball spécial Walt Disney l'Enchanteur et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Avant de dire en détail ce qu'on trouve dans ce documentaire, Rafik, on va préciser que tu apparais dans les bonus
fait,
du
oui,
DVD,
histoire que tout soit clair. Un énorme conflit d'intérêt, voilà. Tout à fait. Je ne touche pas un centime sur les ventes de ce DVD néanmoins, mais effectivement, je suis dans les bonus pour parler de l'après Disney, en complément du doc.
Voilà. Et donc le doc, qu'est-ce qu'il nous raconte?
Alors ce doc, en fait, est une production de Sarah Colt, qui est une documentariste qui s'est spécialisée dans les grands portraits historiques. Mm-hmm. Hein, c'est des Henry Ford, des personnalités comme ça qui ont eu un impact déterminant sur la culture américaine en l'occurrence, mais aussi du coup sur la culture mondiale. Et elle s'est attaquée donc à un personnage qui, il y a encore quelques années, peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, était totalement inattaquable. Moi, je viens pour prendre mon exemple d'un milieu qui est, on va dire, qui était activiste de gauche assez radical. Et la figure de Disney dans ce milieu-là était basiquement l'empire du mal. Enfin, oui. il incarnait tout ce qui était tout ce qu'on exécrait. Et du fait, du coup, moi, il m'intéressait par la force des choses pour le petit gamin que j'étais, pour découvrir assez vite que pour d'autres personnes qui n'étaient pas de cette mouvance-là, c'était le Père Noël. Mmh. Et quand on a affaire à des personnalités qui sont d'emblée mythifiées dans un camp ou dans l'autre, et qui ont eu un impact sur l'histoire du cinéma qui est total et totalement évident, on s'aperçoit qu'il est très très difficile d'en parler parce qu'on tombe tout de suite dans cette mythification. Et le vrai personnage Disney, qu'est-ce qui se cache derrière cette légende, pendant longtemps, il était très très difficile de le savoir. Il y avait eu un livre, une biographie non officielle de Mark Elliott qui avait été publié, qui s'appelait en français Le Prince d'Hollywood, où on voyait Disney avec un bandeau à la Zorro qui se cachait derrière son bandeau. Ce bouquin n'a jamais été mis en avant, c'est-à-dire que je pense que Disney, la boîte, a dû bien manœuvrer pour justement s'assurer non pas de l'interdire, mais faire en sorte qu'on n'en parle pas. Oui. Et dans lequel ont été révélées beaucoup de choses dont certaines sont encore sujettes à caution, et notamment sa collaboration avec le FBI d'Edgar Hoover. Où il aurait été probablement un agent à un moment donné, etc.
Un similier espion.
Voilà. Mais l'intérêt de la biographie d'Eliott, c'est que comme elle s'intéressait aux raisons qui auraient pu pousser Disney à rejoindre le FBI, d'après, ça c'est la théorie d'Eliott qui n'est pas dans le documentaire, Hoover avait repéré une fragilité dans le personnage de Disney qui avait trait à ses origines. Il était persuadé que ses parents n'étaient pas ses parents et s'était mis en charge de retrouver la trace de sa vraie famille. Ouais. Et ce qui était une façon de le faire poireauter, du genre mes services sont dessus
et en attendant tu vas me rendre service. Tu peux nous aider un petit peu
voilà.
Aussi. Ouais.
Et comme c'était, je pense que Hoover avait repéré l'importance de ce que pouvait être l'agent Disney grâce aux soviétiques, puisque Sergei Eisenstein, qui était le grand génie du cinéma révolutionnaire soviétique à l'époque, avait été très explicite sur le fait que son seul et unique concurrent dans la révolution en cours, c'était Walt Disney. C'est-à-dire qu'aucun politicien américain ne faisait peur à Eisenstein, mais il disait si on a un ennemi, c'est lui. Eisenstein avait une admiration sans borne pour Disney, évidemment. Mais il avait compris à quel point l'art cinématographique de Disney allait avoir un impact délirant sur la civilisation occidentale. L'Amérique formalisée des années 50, par exemple, c'est l'Amérique de Disney. On a vraiment l'impression qu'elle était construite sur un modèle Disney. Les parcs d'attractions ont été le modèle de toutes ces hypermarchés et ces galeries marchandes qui ont couvert le territoire des États-Unis. Et donc s'intéresser à la névrose qu'il y a derrière ce personnage là, c'est comprendre un peu mieux la névrose de l'Amérique tout entière et du coup celle qu'elle a transmise au monde entier quoi.
Ce documentaire, il fait 4 heures, mais il est riche en archives.
Je suis tombé sur le cul en découvrant ce documentaire. Il y a plein, c'est essentiellement des choses dont j'avais entendu parler, mais entendu parler, comme je l'ai dit, dans des publications underground d'une certaine façon, et notamment des choses, dont je pensais qu'il n'existait aucune archive d'aucune sorte, et notamment l'énorme grève que les employés de Pinocchio avaient fait dans les années 40 au studio Disney, qui, au niveau symbolique, c'était énorme, quoi. J'incarne l'Amérique dans tout ce qu'elle a d'enfantin et d'innocent, etc. Et boum, ces animateurs se mettent en piquet de grève et voilà, c'est le communisme qui lui tombe sur la gueule. Arthur Babbitt, qui était le leader de cette grève, sa carrière a été totalement brisée, par derrière, quoi. Il s'assurait qu'il ne retrouve jamais de boulot nulle part. Babbitt était un des animateurs les plus importants de Pinocchio. Et derrière cet enjeu politique, il y a aussi un enjeu familial, parce que Disney, c'était aussi la figure paternelle de cette équipe. Babbitt, c'était l'enfant rebelle. Enfin, il y a tout un truc en jeu. Et donc, dans ce documentaire, quand on arrive par exemple au moment de la grève, où rien n'est caché, tout est dit, on a carrément des images. Et alors là, je me suis dit, mais d'où sortent ces documents? Il y a vraiment, sur des périodes de sa vie qui sont considérées comme obscures, on se retrouve avec carrément des images de Disney qui arrivent au studio, qui voient le piquet de grève, etc. Enfin, presque comme s'ils avaient reconstitué le machin, quoi. Et donc, c'est 4 heures où j'ai vraiment passé mon temps à tomber de ma chaise en me disant, mais d'où sortent ces documents, et enfin on s'autorise à en parler, parce que au bout du compte je pense que les gens se rendront compte que plus on nous explique à quel point ce personnage était instable, complexe et par certains côtés sombre, plus on aura de l'estime pour l'importance de son leg, en fait. C'est Disney, il faut le rappeler, parce que c'est quelque chose qui n'est toujours pas rentré dans les consciences. C'est un des 3 ou 4 plus grands noms de l'histoire du cinéma. C'est pas juste un mec qui a fait un truc rigolo pour les enfants. C'est quelqu'un qui a créé la façon même avec laquelle on considère l'art cinématographique. Son impact est délirant. Eisenstein l'a compris tout de suite. Et la critique, hélas, en 2016, a encore du mal à le comprendre. Dernièrement, on avait l'ancien directeur de la Cinémathèque française qui se vantait à la radio de n'avoir jamais vu de Walt Disney. T'as juste envie de te jeter par la fenêtre quand tu entends quelque chose comme ça. Non, j'ai jamais vu de film du cinéaste le plus important que les États-Unis aient fourni dans les années 30 et 40. Bref, donc c'est un personnage essentiel à la fois au niveau du cinéma et au niveau de la construction idéologique du monde dans lequel on vit. Et ce documentaire vous offre enfin la possibilité de voir qui il était réellement. Et ce qu'il était réellement est effrayant, mais en même temps, quelque part on apprend à mieux l'aimer, voilà.
Et ce documentaire, il s'appelle, on l'a dit, Walt Disney l'Enchanteur, et il est disponible à l'Atelier d'Images, un très beau coffret DVD avec Rafik Djoumi dans les bonus plus.
Et c'est
encore mieux, merci beaucoup Rafik, merci à Jules à la technique, autant que pour l'accueil. Rendez-vous sur nosciné.com pour retrouver toutes nos anciennes émissions. On rappelle que Nos Ciné, c'est un podcast du réseau Binge Audio, à retrouver aussi sur binge.audio, et à très vite pour un nouvel épisode.
Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizi. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Marvin Gaye et à la Funky Family. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.